France Inter, le 18-20.
C'était il y a un petit peu plus de deux mois. À la mi-mars, des pompiers venus de toute la France avaient manifesté dans Paris pour demander plus de moyens et de reconnaissance. Il faut dire que le nombre d'interventions ne cesse d'augmenter et que les moyens ne suivent pas forcément. Alors ce soir, au téléphone sonne, on pose la question: comment améliorer les secours à personne en France? Une question plus que jamais d'actualité après ce qui s'est passé notamment cette semaine à Manchester. Mais outre les attentats, il y a tous les jours des accidents domestiques, des accidents de la route, des malaises, des incendies pour lesquels on est bien content de trouver des secours. Dans ces conditions, plusieurs interrogations. Faut-il mutualiser certains services? Où en est la coordination entre les pompiers et le SAMU? Faut-il un numéro d'urgence unique? Faut-il faire payer certaines interventions? Et surtout, comment faire en sorte que le grand public soit mieux formé aux premiers secours, aux gestes qui sauvent? Car nous sommes tous concernés. Avec nous pour en parler, le colonel Éric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonsoir Éric Faure.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez remis le mois dernier au gouvernement un rapport sur les gestes qui sauvent, rapport rédigé avec le docteur Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes, qui est donc resté avec nous. Rebonsoir Patrick Peloux.
Bonsoir à nouveau.
Et en duplex de Mulhouse, la sénatrice LR du Haut-Rhin, Catherine Trendley, auteur d'un récent rapport sur les secours à personne en général et les moyens de les améliorer. Bonsoir Catherine Trendley.
Bonsoir.
Et merci à nos amis de France Bleu Alsace pour cette liaison à distance. Pour interpeller tous nos invités, franceinter.fr ou le téléphone 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, direction justement le standard de France Inter, Marianne nous appelle du Gard. Bonsoir Marianne.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous. Vous souhaitiez intervenir?
Oui, je souhaitais intervenir à propos de la formation justement aux gestes qui sauvent, puisque moi je travaille à l'éducation nationale et la réforme des collèges prévoit effectivement que nous formions les élèves de 3e avant qu'ils quittent le collège. Le problème c'est d'avoir les moyens de donner cette formation et en particulier de trouver des formateurs.
Merci beaucoup Marianne pour cette entrée en matière. On va tout de suite enchaîner avec Pierre qui nous appelle de Saint-Gratien et qui veut lui aussi nous parler de la formation au premier secours. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Alors donc voilà, moi j'étais moniteur de secourisme dans le cadre de mon entreprise et ça fait un certain temps déjà et il y a plus de 30 ans que j'entends dire qu'il faudrait. Et par rapport à ce qui se passait dans les pays étrangers, même près de chez nous, et on ne voit rien venir. Et je me posais la question, est-ce que le fait que, par exemple, la Croix-Rouge soit, je dirais, les détenteurs de la formation et son fonds se fasse rémunérer par le biais de ces formations, est-ce que ça ne serait pas un frein, quelque part, au développement de cet apprentissage au geste de premier secours.
Alors, on va voir tout ça. Merci Pierre de nous avoir appelé. Éric Faure, président de la Fédération des sapeurs-pompiers. Première remarque, il y a déjà des formations qui sont mises en place au niveau scolaire, mais pas assez.
Il y a des formations, mais pas assez. Dans le rapport que nous avons rédigé avec Patrick Peloux, c'est clair. C'est clairement dit, la solution finale, c'est l'éducation nationale. Des formations dès la classe primaire, voire quelques éléments maternels. Donc il y a un dispositif du CP au CM2 et il y a maintenant le dispositif pour la troisième. Et aujourd'hui, ce dispositif défini depuis une année scolaire, c'est-à-dire l'été 2016, doit monter en puissance. L'éducation nationale avait 7000 formateurs. L'objectif, c'est d'en avoir très rapidement 10 000. Donc ça, c'est l'autonomie, vers une sorte d'autonomie de l'éducation nationale pour ses formations. Et je rappelle qu'à côté de l'éducation nationale, il y a des acteurs publics ou associatifs pour les aider. Je pense
Pierre
notamment
nous parlait de la Croix-Rouge là.
Pompiers de France, la Croix-Rouge, tout ça dans une logique à la fois dans certains cas de bénévolat, mais également bien sûr d'indemnisation des gens qui font cela parce que certains le font sur du temps de travail. Donc il y a évidemment un élément économique à prendre en compte parce que tout cela a un coût, c'est un coût sociétal et c'est vrai que c'est parfois ce qui a un peu péché depuis quelques années. Il a raison, ça fait 30 ans qu'on en parle, mais on a du mal à le mettre en œuvre. Cette formation aux gestes de premier secours est une ambition, mais elle n'a pas encore pris rang comme une politique publique clairement définie et puis clairement financée.
Alors on rappelle peut-être Patrick Peloux qu'il y a combien de quel pourcentage de gens formés en France? 27%, alors que par exemple en Norvège c'est 95%. Il y a un début de prise de conscience qui commence seulement à arriver en France?
Oh non, ça remonte à longtemps. Nous sommes un peuple généreux, on est un peuple qui a envie d'aider l'autre. La défense civile telle qu'elle s'organise à travers des associations, la Croix-Rouge française, bien entendu, mais il y a la protection civile, il y a l'Ordre de Malte, il y a la Croix-Blanche, il y a plein d'associations qui... Et plein je pense aussi à l'association des sauveteurs en mer et la fédération des sauveteurs. Bon, il se passe énormément de choses. Maintenant, il faut que tous ces systèmes coopèrent entre eux. Lorsque l'éducation nationale a dit, ça remonte à plus de 10 ans, on va... apprendre les gestes qui sauvent et faire l'apprenti, une espèce d'essai sur le secourisme, il a manqué les formateurs. Il faut créer cet élan parce que c'est une demande importante. Entendons-nous bien, le rapport que l'on a fait, ce n'est pas une remise en cause du secourisme. C'est les gestes qui sauvent, c'est en fait le moment où vous allez alerter, appeler les secours, et le moment où des secouristes formés vont arriver.
C'est le bon geste en attendant l'arrivée des secours.
En attendant. Il faut rassurer nos auditeurs. Si vous ne savez pas les faire, vous avez les sapeurs-pompiers qui sont derrière le téléphone ou les permanenciers au niveau des SAMU qui peuvent vous aider à comprendre et à analyser et à savoir comment on fait. Ce qu'on veut, nous, et ce qu'on a souligné dans ce rapport, c'est une meilleure coopération entre les systèmes de manière à former un plus grand nombre. L'élan, n'oublions jamais que cet élan de solidarité, d'apprentissage aux gestes qui sauvent, est parti après les attentats de janvier 2015, relayés, il faut le souligner, par énormément de communes et notamment les casernes de sapeurs-pompiers qui ont participé largement.
Voilà une prise de conscience, mais je note quand même, Éric Faure, parce que je l'ai lu, votre rapport, vous notez, la population française reste relativement passive. On compte encore beaucoup sur les services de secours pour secourir. Il n'y a pas forcément encore tous ces réflexes en France.
Nous sommes des latins et forcément, on n'a pas une prise de conscience comme l'ont les anglo-saxons. Je vois nos amis nord-américains pour lesquels je prends un exemple très concret, les détecteurs de fumée. Dans les appartements, nous avons beaucoup de mal. La loi les a rendus obligatoires. On estime que 60% des appartements sont équipés. Aux États-Unis, au Canada, ce sont tous les appartements qui sont équipés. Et ça a été fait sans normes contraignantes, tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience.
Catherine Trenelet, en direct de Mulhouse, vous souhaitez intervenir sur cette question des secours, des premiers gestes qui sauvent ?
Oui, tout particulièrement en ce qui concerne la formation, j'ai un regard un petit peu plus sévère que le colonel Faure ou le docteur Peloux. C'est un sujet que je connais bien pour le porter depuis plusieurs années déjà dans le cadre du budget sur la sécurité civile. Le docteur Peloux a dit que ça remontait à plus de 10 ans l'objectif de former tous les collégiens. Eh bien, ça date de 2004. C'est une loi de 2004. Et les moyens n'ont jamais été mis en œuvre, tout simplement parce qu'il y avait une grosse difficulté, toujours pareil, le manque de concertation de l'interministériel entre l'éducation nationale et le ministère de l'Intérieur, incapable de s'entendre. Et on verra au cours de l'émission qu'il y a d'autres problématiques, toujours l'interministériel entre la santé et l'intérieur. Mais pour en revenir à ces formations, ce qu'il est nécessaire de faire, et là où on a une difficulté, c'est que ce sont des enseignants qui doivent être formés, et on nous a parlé un petit peu d'une trentaine, voire d'une cinquantaine d'heures pour former un formateur qui formera les enseignants. Moi, je me pose la question, pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi ne pas faire intervenir des sapeurs-pompiers professionnels ou des professionnels de la sécurité civile, Croix-Rouge, protection civile, etc., qui sont à même d'intervenir dans le dispositif de l'éducation nationale? Pourquoi continuer à essayer de former des formateurs, puisque si nous en avons, et ça serait un moindre coût, je pense également, et que nous pourrions arriver à avancer plus rapidement. Nous sommes aujourd'hui à peine 30% des collégiens qui sont formés aux gestes de premier secours. C'est une catastrophe.
Merci.
Quand on pense qu'au Canada, comme l'a dit le colonel Faure, on commence déjà à sensibiliser les enfants à l'école maternelle avec des dispositifs tout à fait adaptés.
Alors, on part au standard de France Inter. Messaoud est en ligne des Ardennes. Vous êtes pompier volontaire, c'est bien ça ?
Bonjour France Inter.
Bonsoir.
Merci
à vous.
Pour la qualité de vos émissions. Bonjour mon colonel, docteur Peloux. Donc moi je voulais intervenir effectivement, je suis sapeur-pompier volontaire donc dans les Ardennes à Givet. On est juste à la frontière belge effectivement sur le fait déjà le travail des sapeurs-pompiers au quotidien. où effectivement maintenant de plus en plus nos interventions, on intervient sur du secours à personne. Et ensuite sur la formation effectivement du grand public, on sait que par rapport à d'autres pays, on est énormément en retard. Donc il y a eu effectivement une mobilisation dernièrement suite aux attentats qui ont touché la France, mais c'est vrai qu'on le ressent, c'est pas assez. Et comme vient de le dire la dame, il n'y a pas effectivement, pourquoi pas solliciter, ouvrir plus les portes aux sapeurs-pompiers en général, hein, je parle pour les professionnels comme pour les volontaires, pour intervenir pour la formation des personnes. Mais après, on sait que c'est une mobilisation de crédit et on a derrière la difficulté du recrutement en termes que ce soit de volontaires ou de sapeurs-pompiers. Donc voilà.
Merci beaucoup, Messaoud. Il y a du pain sur la planche, hein, à entendre nos premiers intervenants, Patrick Pelou et après Colonel Eric Faure.
C'est pas catastrophique. Par rapport à ce qu'a dit la sénatrice, parce que nous qui avons en charge un bout de responsabilité, on doit assumer nos responsabilités et un peu bousculer le sens de l'histoire sur l'apprentissage et la défense civile. C'est pour ça que, notamment sur les formateurs, il faut ouvrir ces formations et la formation des formateurs, notamment vous avez au niveau des SAMU, des CESU, c'est-à-dire des centres d'enseignement supérieur à l'urgence, qui peuvent y contribuer. Le monde hospitalier peut y contribuer. Le monde hospitalier participe notamment, beaucoup font sapeurs-pompiers volontaires. Ce que j'insiste là-dessus, c'est la coopération entre les systèmes. Ce n'est plus la concurrence. C'est-à-dire les guéguerres entre les systèmes, entre, comme disait Madame la Sénatrice, entre l'interministériel, parce que l'intérieur ne veut pas parler à l'éducation nationale, qui ne veut pas parler à la santé. Il faut briser tout ça. Faut briser tout ça pour avoir un sens commun et un idéal. Cet idéal, on l'a, on le connaît, c'est que le maximum de la population soit formée à l'apprentissage des gestes qui sauvent.
Quel objectif, Eric Faure, c'est ce que vous mettez dans votre rapport, 80% de la population formée d'ici 10 ans.
Il faut y arriver.
C'est quoi, 30 nationale, millions de personnes à former.
C'est 30 oui. millions à former, avec l'éducation nationale qui doit être en flux continu, puis rattraper le départ pour les plus de 20 ans qui sont plus en période scolaire ou universitaire. Donc c'est 10 ans de travail pour y arriver. J'étais très heureux d'entendre votre auditeur Ardennais, Messaoud, parce que c'est vrai que grâce au volontariat, sapeurs-pompiers volontaires, ils sont 195 000 en France contre 40 000 pompiers professionnels et 10 000 militaires, Paris et Marseille essentiellement. Donc ça montre que 4 pompiers sur 5 sont des volontaires, à couvrir le territoire. Et là, on aborde une question essentielle qui est vraiment importante pour acculturer la population, pour la sensibiliser, c'est le secours de proximité. Parce que quand dans les Ardennes, on a un secours qui existe, notamment le secours d'urgence pour les personnes, c'est grâce au volontariat. Et je veux insister là-dessus, cet engagement citoyen, on devient sapeur-pompier volontaire dès 16 ans, on est formé dans des formations de plus en plus importantes, parfois trop importantes, mais c'est un autre débat, parce que l'enjeu, c'est la proximité. Plus on est proche, moi, il y a besoin d'avoir des formations extrêmes, parce que quand on est en 10 minutes sur un arrêt cardiaque, pour lequel le massage cardiaque a déjà commencé par un premier secouriste, les sapeurs-pompiers arrivent. Ce sont des techniques à mettre en œuvre avec un défibrillateur semi-automatique, etc., qui sont moins importantes que s'il n'y a rien du tout, puis qu'un médecin arrive 45 minutes après. Donc la proximité et le témoignage de Messaoud est essentiel.
Et bien justement, un autre pompier volontaire nous appelle cette fois-ci d'Auvergne. Bonsoir Rodolphe, bienvenue à vous.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, je voulais témoigner de mon engagement sapeur-pompier volontaire. Vous m'entendez ?
Parfaitement oui. Bien. 5 voilà, sur 5.
Donc je voulais témoigner de mon engagement de sapeur-pompier volontaire et de professeur. Juste pour dire qu'il y a très peu de gens qui ont fait des études supérieures parmi les sapeurs-pompiers volontaires. Un peu comme s'il y avait un plafond de verre qui faisait que cette population-là ne s'investissait pas suffisamment en volontariat, ce qui est quand même un peu dommage. Et ensuite, par rapport à l'éducation nationale, il a été un peu long pour moi de me faire reconnaître dans cette compétence-là. Et du coup, je suis formateur maintenant en premier secours auprès des élèves et des professeurs, mais c'est tout récent et je crois que malheureusement le contexte des attentats a changé beaucoup de choses dans la prise de conscience. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais effectivement, comme le dit le colonel Eric Faure, on est très important des volontaires sur le territoire. On a vraiment une mission de premier ordre et on a beaucoup aussi de contacts avec les professionnels qui nous aident beaucoup. Voilà, mais il y a encore beaucoup à faire.
Merci.
Ça, c'est mon témoignage.
Un grand merci, Rodolphe, de nous avoir appelé. Eric Faure, effectivement, vous l'avez souligné, le système de secours en France repose en grande partie sur les volontaires. Comment on peut améliorer le sort de ces volontaires qui, souvent, sont précaires et qui réclament une certaine reconnaissance?
Vous l'avez dit déjà, avec de la reconnaissance. Et ce que dit Rodolphe est une réalité, c'est-à-dire que des couches sociales plus élevées, on va dire les CSP+, s'impliquent peu dans le volontariat.
Ils ne se sentent pas concernés.
Ils ne se sentent pas concernés, c'est-à-dire que ce sont les braves gens du village, souvent, qui deviennent pompiers volontaires, qui donnent du temps et de l'énergie. Nous devons élargir notre recrutement vers ces populations, vers plus de féminisation, vers la diversité également. Deuxième élément important, c'est de garder nos petites unités dans tous les territoires. Aujourd'hui, on a cette envie farouche de vouloir contingenter le volontariat, l'engagement citoyen bénévole, comme on traite le problème des recettes perception ou des supermarchés, vers des casernes de plus en plus éloignées des petits bassins de population et des casernes très grosses qui poussent à la professionnalisation. Enfin, dernier élément, il faut favoriser le volontariat. La reconnaissance, le maintien de la proximité, mais aussi une aide, des mesures d'attractivité pour que le volontariat ne coûte pas aux sapeurs-pompiers. Coût en vie sociale, coût en vie familiale, coût parfois en travail. Donc il faut aider encore plus le volontariat.
Le volontariat, sachant que les vocations sont en légère baisse sur ces dernières années, toute petite hausse en 2015, mais les années d'avant, c'était,
c'était en baisse. La vocation reste très importante, on est très sollicité, mais le passage entre la vocation et l'engagement est moins important. Et après un an d'engagement, on a beaucoup de pertes en ligne. Donc il faut la volonté d'arriver là, et on ne favorise pas assez l'accès vers le volontariat par des mesures simples, attractives.
Catherine Trendley, toujours en direct avec nous de Mulhouse. Que suggérez-vous de ce point de vue-là?
En ce qui concerne le volontariat, j'adhère totalement à la vision qui vient d'être développée par le colonel Faure. Nous siégeons tous les deux au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. 27 mesures ont été mises en œuvre depuis 2-3 ans maintenant. Elles fonctionnent toutes aujourd'hui. Pour répondre au jeune sapeur-pompier qui a téléphoné tout à l'heure, qui était en ligne, je voudrais lui dire qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui pour travailler en partenariat par convention avec les entreprises. Ce qui permettra peut-être peut-être à des diplômés justement, d'avoir suffisamment de temps par rapport au temps de travail pour se libérer pour un engagement de sapeur-pompier volontaire. Par ailleurs, comme l'a dit le colonel Faure, les femmes ne sont pas suffisamment présentes, ou alors elles le sont au départ et ensuite elles décrochent. Là aussi, il y a un plan national qui a été mis en place pour renforcer de nombreuses mesures en direction des femmes, ce qui est une bonne chose. Et pour revenir très 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 rapidement sur la formation, oui, de former tous les collégiens, mais oui aussi à une piqûre de rappel un petit peu plus tard. Et c'est quelque chose que nous avons beaucoup réfléchi là-dessus. Ce serait peut-être à l'occasion du passage du permis de conduire. Il y a eu une proposition de loi qui a été déposée en ce sens, et elle n'a pas fait son cheminement complet, mais je crois que dans ce contexte-là, on pourrait améliorer aussi la piqûre de rappel sur les gestes qui sauvent.
Colonel Faure, Patrick Pelloux qui veut répondre.
Si la population ne vient pas au secourisme, le secourisme doit aller à elle. Il faut que ça soit ludique. Faut pas qu'on en fasse une cathédrale infranchissable ou en croyant que c'est justement des milieux intellectuels qui pourraient se l'approprier. Tout le monde peut le faire. C'est ce qu'on a voulu dire, surtout avec les gestes qui sauvent. Deuxièmement, le président de la République s'est engagé pendant la campagne présidentielle à remettre le service national pour toutes et pour tous. Il faut que l'apprentissage des gestes qui sauvent, voire même le secourisme, en fasse partie. On doit se doter d'outils nouveaux. On doit se doter d'un meilleur apprentissage de manière à ce que les personnes puissent avoir accès à ce savoir et surtout le démystifier. Ce n'est vraiment pas compliqué de faire du secourisme. En plus de ça, vous êtes encadré par des sapeurs-pompiers, par des professionnels d'associations qui sont très bons. qui connaissent parfaitement leur job et c'est passionnant parce que humainement, c'est vraiment un des curseurs de citoyenneté et d'humanisation de notre société.
Et puis c'est quelque chose d'essentiel, éviter de paniquer devant une situation, Eric Faure.
Éviter de paniquer, savoir appeler les secours, parce que des fois, c'est pas facile dans la panique. Puis faire quelques gestes simples. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un petit peu comme faire du vélo. On apprend et on est capable très rapidement de refaire ça. Et là aussi, on a beaucoup banalisé, dans le bon sens du terme, les gestes. Il y a 20 ans, quand on faisait un massage cardiaque, il fallait presque un pied à coulisse pour bien positionner sa main sur le thorax. Mmh. Aujourd'hui, on dit, écoutez, positionnez votre main et puis appuyez fortement en rythme et ça va aller. Parce qu'il vaut mieux, faire le geste parfois imparfaitement que de rester les bras ballants devant la victime.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est notre quotidien, notamment au niveau des SAMU. Quand le massage cardiaque est fait immédiatement, il suffit juste d'appuyer en rythme sur le thorax, vous sauvez les personnes. On a oublié le bouche à bouche. Il faut oublier le bouche à bouche. Mais ce massage cardiaque de quelques minutes, le temps que les secouristes professionnels arrivent, sauve des vies.
On repart au Standard de France Inter. Agnès est en ligne avec nous. Bonsoir Agnès.
Bonsoir,
souhaitiez merci. Témoigner.
Oui, merci pour vous. Je vais faire court, il paraît qu'il faut que ça serait court. J'étais rue des Abeilles il y a 3 semaines, un jeudi, et je marche sur le trottoir. Devant moi, une jeune femme s'est écroulée par terre. Plus de pouls, plus rien. Donc je suis infirmière de métier. Et il se trouve qu'il y avait aussi un touriste canadien qui est médecin urgentiste à Montréal. Donc on a pratiqué le massage cardiaque. En 4 minutes, elle est repartie. Enfin, j'aime pas ce mot, mais c'est... Voilà. On était très fiers. Elle s'est mise à vomir. Moi, j'ai mis mes mains dans sa bouche parce que j'avais rien de dur pour qu'elle n'avale pas sa langue et son vomi. Après, avec les moyens du bord, on a fait vraiment de notre mieux et elle vivait. Puis le SAMU est arrivé, bon, parce que on avait demandé aux gens d'appeler le SAMU. Ils sont arrivés avec les pompiers. Et ce que j'ai trouvé extrêmement dur, c'est que le SAMU, c'est normal, ils ont pratiqué tout ce qu'ils devaient faire, mais on a été traités de badauds, alors que nous, on venait de masser cette femme et que je ne sais pas du tout, je voulais savoir si elle avait continué à vivre, si... Voilà, est-ce que c'est possible de... qui ne jouent pas toujours au cow-boy, je comprends qu'ils écartent tout le monde, mais nous, on avait fait le massage cardiaque pendant 4 minutes, et il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus rien, donc c'est très bouleversant. Moi, je suis infirmière, dans un hôpital, c'est quand même pas pareil, parce qu'en 30 secondes, tout le monde arrive. Voilà.
Elle a quand même eu de la chance dans son malheur, cette dame, de vous croiser, et ce touriste canadien qui est médecin. Patrick Pelou vous répond, Agnès.
Bravo Agnès pour ce que vous avez fait, vous avez sans doute sauvé une personne. Il faut comprendre que quand on intervient, on a la responsabilité du secret médical. L'acte en urgence n'est pas dérogatoire au secret médical, donc on doit protéger la victime. Alors, vous avez raison, on est souvent maladroit avec les personnes qu'on pris justement et qu'on fait les gestes qui sauvent. Mais on peut pas faire autrement. Mais par contre, ça veut pas dire qu'on peut pas changer les choses. Et vous me donnez une idée, probablement qu'il faudrait qu'on prenne l'identité des personnes qui ont fait les gestes qui sauvent et que d'une manière ou d'une autre, on leur donne une information qui soit une information protégée et garante du secret médical pour justement encourager cela et qu'il n'y ait pas ce ressenti de mépris. Croyez bien que de la part des équipes du SAMU de Paris, il n'y a eu aucun mépris à votre égard. C'est juste qu'il y a une telle concentration pour sauver la victime que des fois, on le vit comme un mépris, mais ce n'est pas un mépris, c'est une concentration pour le travail et il en est de même pour les sapeurs-pompiers.
Alors moi, j'ai une question complémentaire, Eric Faure, et c'est Olivier qui nous interpelle par courriel. Il a lu votre rapport à tous les deux et il demande qu'est-ce que c'est que la proposition numéro 27, qu'est-ce que c'est qu'une loi du bon samaritain pour protéger les citoyens qui interviennent. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des poursuites contre ceux qui portent secours, c'est ça?
C'est le complément de ce que vient de dire Patrick. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que si on va aider quelqu'un et qu'on fait une bêtise, on va être mis en cause. Il faut complètement inverser la tendance. Il faut d'une part expliquer que non, ce qu'on va faire, au contraire, on doit être protégé, le témoin doit être protégé dans ce qu'il fait. Et l'intervention de madame et la proposition de Patrick va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faudrait même qu'on puisse compléter ce dispositif par un vrai témoignage de reconnaissance des personnes personnes qui ont fait cela avec l'obligation pour les secours de prendre leurs coordonnées pour qu'elles puissent à un moment donné recevoir ce témoignage de reconnaissance. Donc c'est vraiment ça, c'est inverser la tendance vis-à-vis de ces personnes, passer de la méfiance à la confiance.
Catherine, j'ai eu ça une fois avec quelqu'un qui a refusé de faire un massage cardiaque en disant non, je le fais pas. Et c'est pour ça que, alors, il faut protéger, comme vient dire Eric Faure, les personnes qui interviennent pour pas que ça soit une judiciarisation du premier secours. Ça, c'est évident. Mais n'oublions pas que quelqu'un qui ne porte pas secours ou qui ne va pas aider quelqu'un, c'est de la non-assistance à personne en péril. C'est du pénal.
Catherine Trendley, vous êtes toujours en direct avec nous et vous souhaitiez intervenir.
Oui, toujours sur ce sujet-là. En ce qui concerne la judiciarisation à outrance, c'est un phénomène de société que nous connaissons tous. Il est évident que ces personnes qui vont porter secours doivent être protégées. Je pense qu'un dispositif législatif, malheureusement un supplémentaire, mais de protection de ces personnes qui portent secours est nécessaire parce qu'il y a eu beaucoup de jurisprudence qui a été brandie lorsqu'on a souhaité justement intégrer les 5 gestes qui sauvent dans le permis de conduire, en nous disant qu'il y avait eu des procès qui ont été faits à des personnes qui, même en essayant de sauver une personne, avaient fait du mal à cette personne-là. Mais elles ne sont pas médecins. C'est les premiers gestes qui sont absolument nécessaires. On ne connaît pas l'issue.
Et c'est donc toujours mieux de faire quelque chose que de ne rien faire.
Un dispositif à faire.
Merci beaucoup. On repart au Standard de France Inter. David est en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes directeur du SAMU de l'Allier, c'est cela ?
C'est ça. Directeur du SAMU 03, donc un SAMU de moyenne importance. Alors je voulais apporter un témoignage, moi je m'intéresse à la gestion de crise qui implique de nombreuses victimes au sens large. J'ai dirigé une thèse de médecine sur ce sujet il y a 2 ans et on est arrivé sur le constat que finalement tous les services, tous les SAMU, beaucoup de pompiers, les préfectures et les agences régionales de santé ont la même attente, c'est-à-dire un outil collaboratif et surtout de coopération entre les acteurs. Donc moi j'ai développé un logiciel qui met cette coopération entre les acteurs au cœur du dispositif, parce que finalement, et ce qu'a dit Patrick Pelou un peu plus tôt, dans le quotidien, on a tous des chapelles, qu'on soit SAMU ou qu'on soit pompier, etc. On travaille au quotidien avec nos chapelles, mais sauf que la gestion de crise, et je crois que c'est là véritablement, il faut que les mentalités évoluent, c'est que c'est un métier à part entière qui doit avoir des acteurs qui coopèrent et pas qui se coordonnent. La coordination en gestion de crise, c'est extrêmement compliqué. On voit que ça marche plus ou moins bien. Et la base pour avoir une coopération, c'est d'avoir un outil commun, que ce soit pour les institutionnels, donc les préfectures, les ARS, ou les opérationnels, pompiers ou SMUR. Pour vous donner juste un exemple, j'ai développé ça en partenariat avec mon hôpital.
Oui, David, on va peut-être passer, je crois qu'on vous a perdu en plus, hein. On va peut-être passer la parole à Eric Faure sur cette proposition.
J'entends bien ce qui a été dit et je partage complètement la finalité. Bon, on évoque un outil qui permet la gestion de crise. Au-delà des outils, je crois que l'important, c'est que les gens sachent travailler et apprennent à travailler ensemble. Aujourd'hui, les pompiers de France pensent que, à la fois pour traiter l'appel d'urgence, mais également pour mieux se coordonner lorsque nous sommes en situation de crise, il faut arrêter d'avoir une multitude de centres opérationnels. Aujourd'hui en France, nous avons à peu près 450 points de réception des appels d'urgence. 15, 17 police, 17 gendarmeries, 18 sapeurs-pompiers.
Plus le 112.
Le SAMU. L'Europe a parfois des vertus, et souvent des vertus, c'est celle d'un numéro d'urgence unique, le 112. Donc aujourd'hui, mettons les gens ensemble avec un point de réception du 112 et surtout derrière, en cas de déclenchement des secours et de situation de crise, des gens qui travaillent ensemble, parce qu'on l'a vu trop souvent, quand la crise est là, quand la multitude de tâches à traiter est importante, si on est chacun de son côté, même à quelques centaines de mètres d'écart, on n'arrive plus à communiquer parce que les flux de communication, qu'ils soient téléphoniques, qu'ils soient informatiques, sont très vite brouillés. Alors que de se retrouver autour de la table, ensemble, c'est quelque chose d'essentiel et de plus rapide. Donc arrêtons de diversifier ces centres d'appel et ces centres de coordination et mettons les gens pas à partir de d'un certain périmètre de population, 30, 40 ou 50 centres communs sur l'ensemble du territoire.
Je vous donne la parole tout de suite, Patrick Pelou, mais je voudrais juste qu'on aille à Mulhouse, parce que c'est vraiment, on est au cœur du rapport de Catherine Trendelet, sur justement la coordination, la mutualisation des services. Vous, dans votre rapport, vous parlez même d'un bricolage permanent.
Oui, absolument. Pour revenir à l'intervention, tout simplement, pourquoi attendre la gestion de crise pour travailler ensemble? Au quotidien, il est possible de travailler ensemble. Nous avons développé dans notre rapport l'ensemble des dispositifs qui fonctionnent en France, des plateformes communes où les sapeurs-pompiers, donc les blancs et les rouges et les médecins se coordonnent sur une même plateforme. C'est même complètement intégré, par exemple, en Haute-Savoie, où on trouve sur la même plateforme, tous ensemble, les pompiers, les médecins, les ambulanciers, les gardes des médecins libéraux, et les urgences sociales aussi. Il y a également le service de service de téléalarme du conseil départemental. Donc on peut arriver à des choses complètement abouties pour gérer le quotidien des urgences. Donc pourquoi attendre la gestion de crise? Je pense qu'il faut très vite s'atteler à cette tâche de rassembler les uns et les autres.
Patrick Pelou.
Ce qui est incroyable, c'est que, en fait, c'est l'objet de notre réunion tous ensemble le 7 janvier 2015 et qui m'a évité d'être présent à Charlie Hebdo, et on est tous intervenus de concert pour essayer de sauver les victimes de l'attentat. Donc ce sujet est vraiment d'actualité. Et il faut que les pouvoirs publics dynamisent cette coopération et se travailler ensemble. Parce que sinon, vous avez de plus en plus d'applications de smartphones ou d'assureurs qui commencent à prendre la main là-dessus. Et donc, il y a une modernité de la part des pouvoirs publics à avoir. Je rejoins complètement ce que dit Madame la sénatrice et son rapport. Cette modernité, il ne faut pas que ça effraie, parce que je le sais que ça effraie un certain nombre d'urgentistes, des SAMU, ça les inquiète. Mais justement, cette modernité, c'est la construction de l'égalité des chances pour tout un chacun et une bonne performance, une bonne efficience de notre système, qui n'est pas une efficience économique, qui est une efficience de compétences.
Moi, j'ai une question à vous poser, Éric Faure, par rapport à l'inflation des interventions. Globalement, le système fonctionne bien, les pompiers sont rapidement sur les lieux en cas d'appel, mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'appels? Est-ce que les gens n'appellent pas pour trop de choses les sapeurs-pompiers? Est-ce qu'on n'appelle pas pour tout et n'importe quoi?
Cette inflation est une réalité. Le nombre d'activités, l'activité des sapeurs-pompiers a considérablement augmenté ces 10 dernières années. Elle traduit deux choses. La première, c'est un désengagement du citoyen. Donc c'est notamment un des objets du rapport écrit avec Patrick Pelou. Ça a été l'objet de l'engagement des sapeurs-pompiers de France avec la Croix-Rouge et la Protection civile dans la grande cause nationale 2016. Adoptons les comportements qui sauvent. Il faut que le citoyen soit plus responsabilisé. Mais deuxième élément, cette inflation traduit aussi certaines rationalisations de fonctionnement de services divers et variés, ce qui fait que les sapeurs-pompiers sont devenus le service public ultime.
Pas seulement. Et puis là où il y a des déserts médicaux, on appelle les pompiers parce qu'il y a d'autres solutions, voilà. C'est ça?
Pas seulement dans la ruralité, mais ça a été dit tout à l'heure dans l'émission entre 18h et 20h, et 18h et 19h, également en ville où on a aussi des déserts médicaux. Donc on appelle les sapeurs-pompiers parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Alors ce que je réclame, moi, c'est que il ne s'agit pas forcément de diminuer le nombre d'interventions, parce que ce que font les sapeurs-pompiers, ils le font bien, et ça répond aux demandes de la population. Ce qu'il faut clairement faire aujourd'hui, c'est réfléchir territoire par territoire sur les forces en présence, ce qui peut être fait, ce qui ne doit pas être fait, et non plus nous mettre en bout de ligne avec une notion où on subit finalement les interventions plutôt que les piloter. Enfin, dernier élément, parmi toutes ces interventions, il y en a certaines que nous allons peut-être continuer à faire qui ne relèvent plus de l'urgence, et il faut nous donner les moyens de les faire différemment. En clair,
vous devez continuer à vous occuper de tout ça? C'est aussi une question, parce que je crois que, par exemple, l'incendie ne représente que 7% de l'activité des pompiers. Il y a peut-être des choses qui pourraient être déléguées à d'autres services.
La question, c'est pas forcément de ne plus tout faire. La question, c'est que dans certains cas, on peut faire différemment. Par exemple, quand on supplée la carence d'un médecin qui ne peut pas intervenir, le médecin serait intervenu au bout d'une heure. Nous, on envoie une ambulance avec des pompiers qui partent avec les appels d'urgence, notre sirène et le giro. gyrophares. Non, on a peut-être le temps, nous, de finir ce que nous faisons, plutôt que de déranger une équipe qui est à 20 km, faire partir l'équipe de proximité qui, 15 minutes plus tard, va être disponible. Donc, la question, c'est pas de dire de manière technocratique, depuis Paris, on ferait plus ci, on ferait plus ça. Il faut que ce que nous faisons corresponde aux besoins des territoires et avec d'autres moyens pour les faire. Il n'y a pas toujours de l'urgence qui justifie le déplacement rapide d'une équipe.
Je vous passe la parole dans une seconde, Patrick Pelot. Mulhouse nous appelle, Catherine Trendley. On la voit pas, alors évidemment, la pauvre est obligée de se battre avec la régie. Oui, oui, vous êtes là, Catherine Trendley, allez-y.
Oui, merci. Il y a effectivement une inflation ces dernières années en ce qui concerne le secours à personne pour tous les SDIS de France. Et c'est une véritable problématique financière pour les SDIS qui ne peuvent plus aujourd'hui monter en puissance par rapport à leur personnel. D'où l'intérêt d'avoir énormément de sapeurs-pompiers volontaires qui s'engage pour suppléer. Néanmoins, il y a quand même des interventions, comme l'a dit le colonel Faure, moi j'appelle ça la bobologie. Aujourd'hui, ils sont vraiment victimes de leur succès parce qu'ils sont proches, les sapeurs-pompiers volontaires, parce qu'ils sont dans le village,
parce qu'ils sont sympas.
Parce qu'il y a la désertification médicale, ça c'est clair. Il y a des gens qui téléphonent aujourd'hui pour tout et n'importe quoi. C'est ce que nous, on appelle dans notre rapport la bobologie. Sur ces sujets-là, je trouve que c'est un gâchis en moyens humains et en moyens matériels de faire déplacer que ce soit des médecins et surtout les sapeurs-pompiers. Et comme l'a dit le colonel Faure, peut-être faut-il à un moment donné, peut-être songer comme le font certains départements, au paiement de ces interventions qui ne se justifient pas.
Comme le fait le Calvados, je crois. Oui. Merci beaucoup Catherine Trendley, il est presque 19h58, Patrick Pelloux, le...
Très vite, j'aime pas le mot bobologie. Je pense que derrière, il n'y a jamais personne qui appelle comme ça les secours. Il y a toujours un fond, il y a toujours un problème. On est débordé, 65 millions d'habitants. Nous sommes un des pays au monde avec la surface géographique la plus variable. Il faut qu'on adapte aux besoins de la population. Parce que nous sommes la dernière lumière allumée dans l'obscurité des drames. Et il faut pas l'oublier. Et alors, c'est sûr que maintenant, c'est à nos concitoyens d'être respectueux et de pas faire n'importe quoi avec le système, parce qu'on est tous garants et redevables de ce système de secours.
Merci Patrick Pelloux. Il ne reste plus qu'une minute. Le mot de la fin, ce sera pour vous, Éric Faure. On a plein d'appels encore, plein de questions à vous poser, notamment sur les agressions contre les pompiers. Juste en deux mots, ceux qui ce soir se disent « j'ai envie de me former aux gestes de premier secours », où est-ce qu'ils vont, à qui ils s'adressent, très concrètement ?
Écoutez, il y a des casernes de sapeurs-pompiers dans 7000 communes en France. Il y en a à Paris et partout sur le territoire, y compris dans des zones rurales. C'est un premier point d'entrée. Il y a la Croix-Rouge. Il y a la Fédération de protection civile, très présente dans les territoires. Ce sont d'autres points d'entrée. Et puis, on l'a un peu évoqué, on l'a pas évoqué, mais il y a le monde du travail. Le monde du travail qui aujourd'hui oblige à certaines formations. Donc il y a moyen de se former dans le travail. Et puis je pense que les enfants, il faut inciter les enfants à s'associer au sein de l'éducation nationale, parce que ces cours de secourisme, ces gestes qui sauvent, ça doit pas être une récréation à l'école. Donc il faut continuer, il faut que les parents d'élèves fassent pression pour qu'ils aient bien lieu dans les écoles primaires, dans les collèges. Donc il y a tout plein d'endroits. Vous trouvez ça sur les sites internet, celui des pompiers de France, par exemple.
Merci beaucoup, Éric Faure. Merci beaucoup, Patrick Pelloux.
Merci beaucoup.
C'est fini. Un grand merci d'avoir passé deux heures avec nous.
Ah oui, c'était trop court.
Grand merci aussi à Catherine Trendley qui est à Mulhouse. Merci à nos amis de France Bleu Alsace qui nous ont permis de dialoguer à distance. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Irène Menem, Jérémy Younes à la réalisation ce soir. Marion Lelay, merci à toi, Marion. À la technique, Patrick-Henri Bérec, Gilles Gaillard. Merci aussi aux standardistes de l'émission.